de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le vendredi 7 février. L'année passe vite, hein. Et le mandat de Trump aussi. Apparemment, c'est ça tire dans tous les sens. Il a été élu le 6, enfin, il est élu, il est en poste depuis un mois. Non, c'était pas le 6. Il a plaidé, je sais plus quoi, qu'est-ce que je raconte moi. Il a prêté serment, c'était le 20 janvier, quelque chose comme ça. Et on n'a pas fait un mois qu'on est déjà en plein, je veux dire, en plein régime, quoi. Il n'y a pas un jour que Trump n'annonce quelque chose de, comment on va dire, un game changer. Et bon, j'avais lu quelque part il y a, je sais plus quand, il y a un moment que le général, où j'ai lu, où j'ai entendu que le général de Gaulle disait que, en fait, une fois qu'on est en fonction, en tant que président de la République, bien sûr, on n'a plus trop le temps de réfléchir. Ça veut dire qu'il faut réfléchir avant d'arriver au pouvoir, à ce qu'on va faire. Parce que c'est vrai que une fois le pouvoir entre les mains, on est un peu sur pilotage automatique. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Bock pour Radio Silence. Bon, toujours Trump, Trump, Trump. Ça change, ça change, ça change. Mais en même temps, je n'ai pas dit que c'est cohérent, oui. Mais c'est dans la logique, d'une part, de ce qu'il faudrait faire, en dehors de Gaza, bien sûr, et de la méthode. Au niveau de la méthode, c'est assez intéressant ce que Trump fait parce que il pose. En fait, c'est les choses auxquelles il a réfléchi avant. Et d'ailleurs, ça tombe bien pour lui parce que Trump, il a la chance d'avoir fait un premier mandat, de s'être retiré comme ça pendant 4 ans, de regarder les choses avec de la distance. Donc, de voir ce qu'il aurait pu mieux faire, ce qu'il a moins bien fait, ce qu'il faudrait faire. Et ça peut être un mandat intéressant si, bon, s'il évite ses propres dérives, hein, qui sont, que tout le monde connaît un peu, bon, comme le phénomène Gaza. Et pilotage automatique, sinon il ne peut pas aller aussi vite, c'est que, oui. On ne vient plus en Amérique. Je ne sais pas si c'est vraiment le droit du sol qui est remis en cause, mais c'est la fraude. Voilà. Trump, il veut traquer la fraude, et pas seulement la fraude, il veut traquer. En gros, c'est la fraude, en fait, parce que les gaspillages, c'est un peu. Non, mais les gaspillages, c'est peut-être pas la fraude, je ne sais pas. C'est l'irresponsabilité, si on veut bien. Il veut traquer tout ce qui est détournement aussi, hein, de fonds publics, mais de façon déguisée, pardon, comme l'USAID. C'est toute une philosophie qui se tient, parce que s'il dit qu'on ne vient plus aux États-Unis avec une grossesse de 8 mois, 8 mois et demi, parce qu'on va accoucher bientôt, pour pouvoir bénéficier automatiquement pour l'enfant de la nationalité américaine. Bon, c'est une fraude, beaucoup de gens faisaient cela et ça augmente l'immigration de façon, on va pas dire incontrôlée, mais de façon. C'est-à-dire que l'immigration arrive et détourne un peu et profite un peu la loi en la détournant, en fait. Bon, c'est un peu de faute. Donc, il n'y a plus ça. Et si le droit du sol qui est remis en question, pas vraiment, mais aussi, puisque j'ai vu que M. Bayrou, le Premier ministre, demande à ce qu'il y ait ou un débat public, je sais pas trop, autour de la question du droit de sol. Je sais pas trop si Trump remet tout cela en question, mais il faut voir. Si on revient au droit du sang en Amérique pure et dure, je ne sais pas, parce qu'il y a des citoyens qui, américains, ça peut pas être vraiment le droit du sang, en fait. Je sais pas, c'est des citoyens américains qui, faudrait qu'ils soient comment, si c'est le droit du sang, c'est bon. Donc le droit du sang, il est toujours là. Bon, après, il y a, ça on passe, parce que c'est l'immigration, il y a donc tous les gens qu'il a fait, qu'il a renvoyés chez eux, ça a donné lieu à un tour de passe-passe sur les tarifs douaniers, parce que Trump, lui, c'est pas compliqué, hein, il frappe en augmentant les tarifs de douane. Et deuxièmement, il interdit aux autorités de visa d'arriver. Bon, évidemment, il les étouffe. Et quand il fera ça pour l'Afrique ici, ah, vous verrez que les choses vont changer. Parce que si vous dites ici aux Africains, c'est-à-dire aux dirigeants et à leurs enfants, et à, parce que lui mélange tout ça, la famille, qu'on fait le drame, les menaces qu'il fait contre le tribunal pénal international, donc s'il applique ça ici en Afrique, ça va changer aussi. L'immigration, c'est plus ou moins réglé. Après, on a tout ce qui est LGBT, donc le genre, Trump met en place, il remet en place le code de la famille. Le genre, c'est un homme, une femme, ou un garçon et une fille. Il n'y a plus ces histoires où, comme on a, en France, on a proposé des traitements gratuits aux enfants qui veulent changer de sexe. Non, mais vraiment. Et si vous voulez changer une dent, c'est toute une histoire. Bon. Ou avoir des lunettes normales, on vous, bon, vous savez tout cela, on va pas parler de ça, mais on voit un peu la philosophie derrière. Après, Trump, là, ça change, quand il dit, il crée d'abord, c'est peut-être par là qu'il fallait qu'on commence, parce qu'en créant ce département pour l'efficacité gouvernementale qu'il a confié à Elon Musk, c'est ça la grande nouveauté qu'il introduit, parce que là maintenant, il y aura un audit quasi permanent, ce qu'on fait rarement. On dit toujours qu'on va faire une revue des politiques publiques, vous voyez les grands mots qui sont très bien, mais à la fin, il n'y a rien. Alors Musk, lui, il a un côté très pragmatique, ça on reconnaît, qui d'ailleurs est très anglo-saxon. Et ce côté-là fait que lui... Ben, il traque partout, il y a les gaspillages partout, il y a la fraude et il sort des choses qui sont énormes. Par exemple, sur l'USAID, l'agence chargée de développement, si vous voulez aider les gens en développement, c'est tout et rien, parce que quand on voit qu'on a financé des journaux en sous-main, qu'on a financé Burisma, vous voyez, quelque chose où le fils Biden est impliqué, qu'on a impliqué British, quoi, qui s'occupait, qui faisait quelque chose comme sur les armes, ou un reportage, ou un journal, ou une association, je ne sais pas. L'USAID, c'est quelque chose qui. Moi, j'ai été surprise, hein, des programmes, parce que je croyais que c'était quand même plus élaboré que ça, mais je crois qu'il y a quand même une partie qui est plus élaborée et qu'on a. On a fait ressortir tout ce qui est vraiment un peu gros et anecdotique. Pas anecdotique, mais trop idéologiquement marqué à gauche, c'est-à-dire qu'on faisait, on accordait la priorité à tous ceux qui pouvaient promouvoir des idées de gauche, quelque chose comme ça. Donc ça devenait un organisme de propagande de la gauche, enfin repris. C'est pas repris, oui, détourné pour la propagande de la gauche, et enfin de la gauche des démocrates. Et donc, ça, c'était un problème parce qu'en sous-main, tout ça, on ne le savait pas. Et l'USAID, bon, peut-être qu'on veut, je sais pas, une fois qu'on a épinglé les dysfonctionnements, peut-être qu'il y a des choses qui sont intéressantes qu'on n'a pas vues. Et tant mieux s'il y a des choses intéressantes. Et après, on a tout ce qu'il a fait, la purge auprès C'est quelque chose des Trump. Auprès des fonctionnaires, le FBI, alors là, il a ouf, tous ceux qui l'ont emmerdé là, qui avec depuis, bon, ça on avait fait un flash auparavant sur ça, et je crois que le directeur avait déjà démissionné tout seul. Donc on a enlevé tous ces gens qui sont là pour, comment ils appellent ça, weaponisation, c'est-à-dire qui se servent de la justice et des institutions pour régler leurs comptes politiques ou personnels. Donc tous ces gens-là, sanctionnés, il faut partir. Soi-disant, en passant, du côté de l'USAID, on a suspendu le personnel pratiquement est mis en congé, bah, puisque il faut revoir tout ça, revue des politiques générales en vrai. Alors Musk ne s'arrête pas là, il est en train de regarder. D'abord il nous a dit que l'armée américaine avait dépensé je sais plus combien de millions de dollars, c'est des grosses sommes hein, pour acheter des préservatifs. Et du côté je sais plus où c'est. Toujours les militaires, on mange des sushis, une ordonnance, enfin une ordonnance, une ardoise de je. Là aussi, ça part en centaines, des centaines de millions de dollars pour manger des sushis. Bon, je sais pas ce que les sushis ont en particulier, peut-être que c'est pour augmenter la libido, qui fait qu'après, il faut acheter les condoms pour les gars qui. Enfin, je comprends pas. Voilà, des excès, des choses qui sont bizarres. Et qui annonce plus parce que il est en train de regarder du côté de la sécurité sociale. Vous savez, ça manque jamais, hein. On a vu en France comment on pouvait se faire payer, détourner ces choses-là. On n'apprend rien aux Français. Et ça énerve déjà parce que oui, ben, jusqu'où il va s'arrêter. Ben, lui, il est chargé de regarder dans tous les ministères. Ce qui va, ce qui va pas, et dans tous les organismes. Et ce qui va pas va être tout de suite mis sur la place publique et arrêté. Parce que Trump, il a ce côté homme d'affaires qui est très bien, chef, je sais pas comment dire, chef d'entreprise, c'est trop petit pour lui. Même homme d'affaires, c'est trop petit pour lui. C'est un magnat déjà de l'immobilier, il a fait beaucoup de choses. Donc lui, c'est un entrepreneur, c'est devenu banal. Donc lui, il coupe sec. Ça passe pas le temps dans des débats, dans des conférences, dans des dialogues, comme les hommes politiques aiment bien le faire pour gagner le temps. Non, non, lui, il n'a pas ce côté-là. Tac, ça marche pas, on coupe. Et puis après, on verra. Pour le moment, on n'a pas encore vu par quoi on remplacera, mais on sait déjà ce qu'on ne veut pas. Quel est le mandat confié à Musk? C'est donc déjà de traquer tout cela. Et dans les dépenses du gouvernement fédéral, comme on dit, et de réduire, parce que c'est ça le but en fait, parce qu'on peut dire, mais pourquoi il fait tout ça? Oui, mais c'est de réduire en fait par cette coupe des dépenses inutiles, de réduire aussi la taille du gouvernement. On appellerait ça en France le train de vie. Du gouvernement, mais pas celle-là, ça va au-delà. Ça dit qu'il y a trop de personnel, par exemple, pour faire un peu du copinage, vous voyez, pour faire un peu du capitalisme de copains, donc tout ça, chut, balayé. On a des dépenses, si c'est des sushis, il faut annuler tout ça, mais je ne sais pas si c'est possible, si c'est possible, les préservatifs, je crois que ça va être difficile. Beaucoup de choses qui vont dans l'intérêt finalement du public, parce que si on réduit quand on va repérer tous ces gaspillages qui sont énormes et qu'on va réduire la taille du gouvernement, c'est-à-dire aussi en personnel, ce sont des économies qui vont être faites et qui vont être répercutées sur ce on peut prévoir comme une politique de la baisse des impôts, qui est tant demandée par les Américains, parce que s'il faut baisser les impôts, ben il faut traquer les gaspillages, parce que ils appellent ça le big government, contre lequel les Républicains sont en guerre depuis toujours. C'est, commence à montrer ses vertus, une de ses vertus. Alors, aux États-Unis, c'est peut-être facile aussi de virer les gens parce que je crois qu'ils ont beaucoup de contractuels et pas beaucoup de fonctionnaires purs et durs qu'on ne puisse pas virer. Et puis là-bas, il y a aussi cette, comment on va dire, cette dignité personnelle quand même des dirigeants qui fait que quand vous-même vous savez que vous êtes pris la main dans le sac pour sous-efficacité, on va dire comme cela, bah, vous démissionnez vous-même. Vous démissionnez de vous-même. Donc, bon, on s'y trompe, hein, on s'y trompe. C'est intéressant parce qu'après, il y a on annonce que l'Ukraine, la guerre, on annonce, je crois qu'il va demander la fin de cette guerre. Mais là où il a commencé à inquiéter le monde, c'est sur Gaza. Demander qu'on délocalise, enfin délocaliser, bah, c'est du nettoyage ethnique. Est-ce que le secrétaire général des Nations Unies vient de dire déplacer les populations de façon massive pour les amener ailleurs, c'est le nettoyage ethnique. Donc, il veut nettoyer Gaza, que les pays autour prennent les Palestiniens, ce qui, avant, ça s'était fait, mais aujourd'hui, ça ne peut pas se faire quand même. C'est énorme, surtout que la question d'Israël, elle est toujours. Oh, on ne va pas trop en parler, parce qu'après, on va passer dans l'antisémitisme, les accusations, c'est des bons. On oublie, et ce qui a été commis, c'est des choses telles que, bon, on pensait que c'est Biden seul qui était pour, mais alors on se rend compte que M. Trump, lui, il a encore plus Biden que Biden. Bon, alors c'est troublant. On a ça en politique où il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas très bien. Bon, maintenant on nous dit, oui, Gaza, finalement, on voudrait en faire une zone grande zone touristique, mais pourquoi grande zone touristique, la plage, la mer et tout? Ben, il y a tout ça à Miami, hein? Le président en Floride, il y a tout ça aux États-Unis. On peut faire du tourisme, du je ne sais pas de quoi. En plus, la Californie vient de brûler, c'est impeccable. On peut réinventer les choses. Et puis, on arrive à cette histoire du tribunal pénal international que Trump menace, je ne sais pas de quoi, parce qu'ils ont osé condamner Monsieur Netanyahou, l'intouchable, ouf, et son ministre, et donc il faut qu'il revienne sur la décision. Oh, c'est pas le président Trump, il est prêt à aller jusqu'au bout pour Israël. Non, au nom de la sacrée, je sais pas, amitié entre. Même pour Gaza, les alliés de l'Amérique ont dit non, quand même. Il y a des limites. Et le tribunal international ne s'est pas laissé faire. Heureusement, ils ont dit à Trump, ben, la justice, c'est la justice. Et ce qui a été dit est maintenu, malgré le fait que là aussi, Trump a dit pour tous, leurs femmes, tout, l'entourage, la famille, plus personne n'aura de visa pour venir aux États-Unis. Je crois que le président Trump, il a un petit retard là sur cette question du visa sur les États-Unis, de cette l'Amérique en fait, de cette image de l'Amérique. C'est vrai, l'Amérique, c'était le pays rêvé, hein, parce que c'était porté par cette culture que tout le monde connaît, cette world music, cet entertainment, cette NBA, c'est tout et tout, c'est tout très grandiose. Si, alors Hollywood, hein, c'est un symbole qui brûle comme ça. Je veux dire, si on regarde les choses de façon symbolique, on va se dire Hollywood. Quand vous voyez l'écriteau qui brûle comme ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une époque qui. Je sais pas comment on peut dire. Une époque qui passe, qui. Je ne sais pas quel est le mot que je peux utiliser là-dessus, parce que l'époque, c'est peut-être trop dur, mais on est en train de passer à autre chose progressivement, où l'Amérique a perdu beaucoup d'attrait. Elle ne s'en rend pas compte, mais elle a perdu beaucoup d'attrait aux yeux justement des gens qu'elle veut menacer, c'est-à-dire à moins qu'ils aient des intérêts là-bas, mais cette élite internationale a des intérêts ailleurs maintenant. Et entre-temps, beaucoup de pays se sont vraiment développés de façon artistique, de façon touristique, de façon esthétique. Quand on voit les images de Moscou, je veux dire, le métro de Moscou, c'est impressionnant. On voit quelque chose de tellement propre, Paris a honte à côté, et de tellement esthétique que artistique, c'est incroyable, c'est magique. Quand on voit les images de la Chine, ce qu'elle fait, même des Thaïlande, de Taïwan, je veux dire, toutes ces villes asiatiques où le tourisme est en train d'exploser parce que elle propose, contrairement à la France, qui reste vieille France, hein, c'est pas mauvais, mais elle reste aussi en même temps coincée, quand je dis la France, c'est peut-être aussi l'Amérique, reste coincée à une forme de tourisme trop connu, quoi, trop conventionnel. On a vu ça, on connaît ça. Bon, ah, et les autres, ils sont en train de créer des univers, c'est le mot, des univers différents, plus ludiques, plus étonnants, plus surprenants, qui font que c'est plus attrayant, vraiment, vraiment. Moi, quand je vois ça, si aujourd'hui on me dit, entre aller à, je sais pas, n'importe quelle villa en Amérique et puis aller à ce que je vois Taïwan ou je sais pas, dans Thaïlande et tout, moi j'irais dire, ah, ben, je vais peut-être aller voir du côté de la Thaïlande, on sait jamais, ça a l'air très joli. Je serais intéressée parce que vraiment, ils ont des concepts d'hôtels qui sont magnifiques et qui correspondent plus à l'époque, hein, à notre temps que, je ne veux pas dire les temps modernes et tout, mais ou les nouveaux temps modernes, que ce que l'Amérique ou la France peuvent proposer, qui sont déjà un peu ringards. Et puis l'Amérique, en termes d'infrastructures, pardon, je parle des infrastructures déjà. Pour quand on regarde le. Ah, bon. Alors, M. Trump, quand il sanctionne par le visa, oui, ça touchera ceux qui ont des intérêts directs. Mais s'ils n'ont pas d'intérêts directs, il y a plein d'endroits où il faut aller maintenant. Et donc, c'est une arme qui va être. Bon, ça ne va pas aller loin, quoi. Ça va pas aller loin. Il va utiliser ça. Les tarifs de douane peut-être, mais si c'est pour menacer le personnel du tribunal pénal international par des choses comme ça, comme l'absence de visa, non. Mais par contre, pour les Africains, oui, il faut les menacer parce que tous les intérêts, c'est là-bas. Eux, ils prennent l'argent en Afrique et puis vont l'investir là-bas dans des façons, de façon détournée, mais ça aussi, peut-être que Trump va traquer tout ça parce que c'est, il va progressivement. Et probablement qu'on va arriver à toutes ces choses-là et ça ne sera pas plus mal. Alors pour terminer, ce qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent ou entendu, c'est l'intelligence artificielle. La position du président Trump sur l'intelligence artificielle. Parce que j'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas hier, aujourd'hui, quelque chose sur le Japon. Qui invente une ville où il y a 2000 habitants pour le moment, et il essaye de voir comment cette ville peut être totalement intégrée. C'est la ville du futur, en fait. Et où il y aurait un mélange, justement, de ces intelligences artificielles et de l'homme. Et quel genre de cohabitation, quel genre de rapport, ils sont en train de réfléchir à ça sans entraver l'humanité. Et ça donne lieu à une ouverture d'esprit, à une ouverture d'un ailleurs, quoi, en fait. C'est la pensée qui part, ou la technique, je sais pas, ou la technologie qui, autour de ces taxes-là qui se sont données, comment créer une ville qui peut intégrer l'intelligence artificielle, quelle place pour cette intelligence artificielle sans entraver l'homme. Et ça crée des choses très intéressantes à tous les niveaux et qui font que quand on regarde du côté aujourd'hui de ce qu'on nous présente, par exemple en Amérique, de ce que c'est que l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on voit? Oh là là, ils vont prendre des boulots de beaucoup de gens, des serveurs, enfin, beaucoup plus. Et ça, déjà, on met l'intelligence artificielle en compétition avec l'humain, ou plutôt, c'est même pas seulement une compétition, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle vient dominer, écraser l'homme, alors qu'en Asie, on est en train de réfléchir comment l'homme, cette intelligence artificielle, peut être soit au service de l'homme, ou soit permettre à l'homme de s'améliorer. Je sais pas, ils essaient de trouver un autre équilibre qui ne soit pas l'équilibre brutal qu'on nous a présenté jusqu'à présent. Et c'est vrai que il y a des coïncidences troublantes, comme la Californie qui brûle, jusqu'en Trump arrive, Los Angeles. C'est tellement troublant, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur l'incompétence et tout, que bon, peut-être que Trump peut en profiter pour. Et d'ailleurs, ils l'ont annoncé, hein, ils auraient un projet comme celui-là, mais était-ce la peine de brûler? Parce qu'en Asie, on voit et on crée un autre espace quelque part. Ce n'est pas la place qui manque aux États-Unis. Oui, donc il y a, avec l'intelligence artificielle, quelque chose de fondamental qui se joue, mais peut-être pas aussi de si fondamental que ça. Bon, on verra bien. Et puis, peut-être alors plus fondamentalement, c'est que Trump, d'accord, il bouge comme ça, mais ce qui n'a pas encore vraiment été approché, et Elon Musk l'approche un peu aujourd'hui en disant que ben il a épinglé Soros en disant que ben, Soros, c'est quelqu'un, c'est une fabrique, un peu de la reproduction des élites, pardon, il a ses pions, en fait. Donc il participe au jeu politique, il manipule à son profit par des gens qu'il soutient par au cours des campagnes, les campagnes présidentielles, pas les campagnes présidentielles, les campagnes électorales, parce que bah, après, une fois que ces gens sont en place, ils feront un peu les lois que lui, il aimerait bien voir exister. Et ce que Musk dit là est important. Il a montré des figures, hein, des gens qui sont soutenus mordicus par Soros, que Soros a placé là, en fait. Et c'est probablement là aussi qu'on attend Trump sur comment changer le système je veux dire, cette fabrique des élus par cet argent qui dégouline dans les campagnes, en sorte que, je sais pas, comment faire, je sais pas, le jeu politique lui-même. Est trafiqué, lui aussi il est trafiqué, mais est-ce que Trump ira jusque, ses réformes iront jusque-là, par quelle porte passer? Bon, il a été au pouvoir, hein, je crois qu'il ne sait pas quelles sont les entrées qu'il s'est fixées pour aussi bouleverser un peu ce système, et l'argent dans la politique américaine, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Bon, lui, il a pris les mesures qu'il a prises aujourd'hui. Mais après lui, si l'argent continue à être ce facteur, bon, en même temps, est-ce qu'il peut changer quelque chose là-dessus? Bon, on va pas aller très loin, on va pas très loin. On laisse la fabrique des élus de côté. On se contente déjà de ce qu'on a vu. On ne va pas deviner plus que cela. On attend ce qui va être dit sur la sécurité sociale. On annonce déjà, on dit qu'en 2023, il y a eu plus de 100 milliards en paiements douteux qui avaient été repérés à ce moment-là. Vous rendez compte? Donc, Musk, lui, il a aussi pour mission de réduire de 2 à entre 1 et 2 trillions. Alors moi, je ne peux pas vous dire les trillions, je ne comprends pas, de dollars, en regardant la sécurité sociale, tout ce qui est du côté donc de l'armée militaire et puis tout ce qui est du côté de la dette. Alors, où trouver ces 2 trillions de dollars, c'est pas mal. C'est ce qu'on verra. Et je crois qu'il peut les trouver, hein. Il peut les trouver facilement en suivant les gaspillages. Parce que si en 2023, on avait déjà 100, enfin, et combien la sécurité, on nous dit qu'il y a, bon, ils ont beaucoup de dispositifs là-bas. Hein. Il y a le dispositif, le Medicare, qui est pour les personnes de plus de 65 ans, et puis les handicapés, les disabled, quelque chose comme ça. Et qui représente environ 66 millions de personnes. Et puis il y a le Medicaid. Là, c'est, disons, la sécurité sociale normale, où on parle de 80 millions d'assurés. Alors, ça fait. Ça fait ce que ça fait. Et en même temps, vous savez, aux États-Unis, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assurés. Hein. Alors, on ne sait pas comment ils se soignent, on ne sait pas si quand on les soigne, il y a aussi de l'argent qui est par là. Bon, je n'ai pas fait le travail de Musk, ce n'est pas le but ici, il est bien placé, mieux placé que moi pour le faire, mais il va trouver ses trillions, ses 2 trillions. Et puis, nous, on continue à souhaiter bonne chance au président Trump. Avec la TPI, c'est mal barré. Avec. Ah oui, entre autres, il s'est retiré du climat, là, ce que la France avait monté en épingle, s'est retiré. Il s'est retiré aussi de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est devenu un organisme privatisé et capté par Bill Gates. Donc, lui, il ne se pose pas beaucoup de questions. Hein. Je ne sais plus si c'était par la jeunesse ou la mairie. Enfin, bon. Il ne se pose pas beaucoup de questions. Ça avance au pas de marche, hein, comme l'armée. Et puis, on lui souhaite bon courage. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Il a reculé un peu sur Gaza. Comment est-ce qu'il va rebondir? De toute façon, la Chine aujourd'hui a dit que non, la Palestine, Gaza appartenait aux Palestiniens par la voix de son président. Hein. Gaza appartient aux Palestiniens. Donc, hors de question que les Gaza et les Gazaouis, on va dire ça, les Palestiniens partent de Gaza. Bon, c'est parce que Netanyahou va faire de tout cela, parce que sa guerre n'a mené nulle part, sinon que il en a profité pour raser Gaza. Si on voulait en faire un complexe touristique, pourquoi fallait il détruire toutes ces infrastructures? Je comprends pas, on comprend pas. Donc, le grand Israël, ce projet, il coûte vraiment cher au Proche-Orient. Regardez la Syrie, c'est toujours parce que Israël veut s'étendre jusque là-bas, c'est ce qu'ils avaient dit, jusqu'aux frontières avec l'Iran. On n'a pas parlé de l'Iran, mais l'Iran, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est. Un autre maître du jeu, et ça, comme Moscou, comme la Chine, le monde s'est élargi. Et Trump, là-dedans, il va falloir, après qu'il ait fait tout ceci, qu'il hausse le jeu, je veux dire là-bas au niveau de l'Amérique, hein, et qu'il propose au monde des choses vraiment sensationnel en termes de d'infrastructures, en termes de révolution, je vais pas dire culturelle, mais oui, l'Amérique a besoin d'une autre révolution culturelle et peut-être que Trump va la porter à l'Amérique. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Elise Mbok. Je vous dis à bientôt.